En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis évidemment très honoré et un peu intimidé et très reconnaissant envers Jean Béchler d'être ici à une tribune où j'ai bien conscience d'être le plus junior des intervenants. Et je sais que vous avez eu des interventions, celle d'Henri Laurence sur la Palestine, celle du professeur Hédé sur la mobilisation à l'heure des croisades. Donc je rappellerai simplement quelques notions de base pour essayer d'expliquer à quel point ce qu'on appelle par défaut le djihadisme est une invention qui est très récente, et ça je ne dirais pas que c'est mon acte de foi, mais c'est peut-être mon hypothèse, peut-être une parenthèse dont on verra assez vite à quel point elle est aberrante par rapport à l'histoire de l'islam. Jihad, c'est jahada, c'est la racine de l'effort, et dans le Coran, elle figure une trentaine d'occurrences. Enfin, le terme jihad n'y figure pratiquement pas, ce sont les termes dérivés, mujahada, mujahidoun, 10 fois dans un sens militaire, 10 fois dans un sens civil, et 10 fois mixte. Mais il est évident que même si le jihad, qui est l'effort déterminé en vue d'un but, a pu trouver le jihad par la plume, le jihad par la parole, le jihad par le cœur, des déclinaisons civiles, même si l'organisation de la conférence islamique a pu lancer, il y a quelques années, un jihad contre l'analphabétisme, voire un jihad contre le sida, c'est la dimension militaire du jihad qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est elle, de toute façon, qui est déterminante, y compris dans l'esprit des musulmans eux-mêmes. Il y a fort peu de choses dans le Coran sur le djihad, je le disais. En revanche, il y a une pratique et une doctrine qui a été plus ou moins formalisée lors des premiers califats et donc des grandes conquêtes qui, en un siècle, et par la voie du djihad, ont amené l'islam du sud de la France jusque dans la vallée de l'Indus. C'est plus tard, au cours du Moyen-Âge musulman, et surtout à l'époque abbasside, quand se forment les différents mazhab, les canons, les écoles de l'orthodoxie sunnite. Je ne mentionnerai pas le djihad dans le chiisme, ce serait un sujet en lui-même, que apparaisse une forme de théorie du djihad. Je renvoie pour cela au livre tout à fait référence d'Alfred Morabia sur le djihad dans l'islam médiéval, avec Jihad écrit G, avec une petite notule qui a été rééditée en poche avec préface de Gilles Kepel. Pour faire très simple, on a deux sortes de Jihad. On a le Jihad défensif et le Jihad offensif. Le Jihad défensif peut ouvrir la voie à une obligation individuelle, fardain, dans le cas d'une décomposition de la communauté islamique, d'une grande détresse, qui oblige donc chacun des individus musulmans à prendre les armes pour défendre la communauté et le territoire de l'islam. En revanche, le djihad offensif est, lui, prescrit par l'autorité théoriquement du calife ou de son représentant, c'est-à-dire concrètement du chef local, vu qu'on ne va quand même pas aller chercher une chaîne trop compliquée. On voit bien que, dans l'histoire, les dernières campagnes de djihad offensif menées par les empires ottomans et moghols, remontent au XVIIIe siècle, en Europe balkanique, et quand même centrale, vu qu'on va un petit peu au-delà de Budapest, et dans le sud de l'Inde dravidienne. Et que le djihad est depuis un djihad défensif, qui, dans le cadre de la crise de l'Empire ottoman, mais aussi de l'expansion coloniale planétaire, va, au fond, s'assimiler aux luttes de libération menées par des peuples majoritairement musulmans, ce que j'appelle de façon un peu commode le djihad de libération. Ce djihad national et défensif est inscrit dans la tradition islamique. Le djihadisme invente une nouvelle forme de djihad qui est le djihad global, qui est le djihad planétaire, qui n'a rien à voir avec les formes de djihad classiques et dont je vais essayer de retracer très rapidement l'émergence et l'évolution. C'est une organisation que l'on connaît malheureusement trop bien, Al-Qaïda, organisation dédiée au djihad global, qui va émerger par le fruit d'un concours de circonstances exceptionnelles, où le hasard, irréductible à toutes les théories du complot, a parfois pesé bien plus que la vision des trois protagonistes qui vont animer cette première partie un peu descriptive, qui sont Abdallah Azam, donc un Jordanien d'origine palestinienne, Osama Ben Laden, qu'on ne présente quand même plus, et Ayman Zawahiri, qui est son successeur actuel de nationalité égyptienne à la tête d'Al-Qaïda, après avoir été son adjoint pendant de 1988 à 2011, donc pendant 23 ans. Sans l'occupation soviétique de l'Afghanistan de 1979 à 1989, la mobilisation d'une véritable internationale moudjahidine, galvanisée par une cause qu'elle supposait pure, car purement islamique, à la différence de la cause palestinienne, bien évidemment, était inconcevable. Sans l'interdiction faite à la CIA d'opérer directement en territoire afghan et sans la détermination d'Islamabad à contrôler étroitement la guérilla afghane, il aurait été impossible de déverser au Pakistan même les milliards de dollars destinés à la résistance antisoviétique. Sans l'institution de zones tribales de non-droit dans le nord-ouest pakistanais, institution par l'Empire britannique reconduite par le Pakistan indépendant, dans ces zones à forte population pashtoune, un glacis de camps d'entraînement n'aurait pas pu s'établir sous autogestion djihadiste et en relation avec les commandants pashtouns de la frontière. Sans l'intolérance des prêcheurs wahhabites à l'encontre de la piété afghane profondément soufie, nul n'aurait validé le concept d'une réislamisation brutale des musulmans eux-mêmes comme préalable à leur libération de l'occupation infidèle. Sans l'ambition saoudienne de briller sur le terrain du djihad et sans la volonté égyptienne de se débarrasser des extrémistes raflés après l'assassinat du président Sadat en 1981, Ben Laden n'aurait jamais rencontré Zawahiri à Peshawar, il n'aurait pas pu établir avec Azam ceux qui allaient devenir Al-Qaïda. Il faut revenir à Azam parce qu'Azam est le seul des trois qui a un minimum de culture islamique. C'est même un docteur en charia, évidemment en Égypte et en Syrie, vu qu'il faut un parcours mixte pour arriver à maîtriser complètement la discipline. Je dis évidemment parce qu'aujourd'hui, la plupart des docteurs en charia sortent des universités wahhabites d'Arabie Saoudite, ce qui, à mon avis, n'est plus du tout la même chose, même si on les appelle encore docteurs en charia. Et donc, Azam, palestinien, engagé dans les frères musulmans jordaniens, il est un des dirigeants, va faire dissidence des frères musulmans jordaniens sur la question du djihad en Afghanistan. C'est un processus d'aliénation assez intéressant par rapport à l'organisation mère, qui ne veut pas souscrire à la violence armée, mais aussi par rapport à la Palestine, vu qu'il se tourne vers l'Afghanistan en plein massacre de Sabra et Shatila. Il a donc, j'ose pas dire, sous le contrôle de notre ami britannique, à mon avis, des petits problèmes d'identité. En tout cas, il fait passer une identité islamique abstraite avant son identité palestinienne concrète. Identité palestinienne qu'il avait pourtant animée pendant les phases précédentes de son engagement militant, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, il est effaré quand il s'installe à Peshawar et qu'il établit avec Osama Ben Laden, qui est un fils de bonne famille saoudienne, qu'il établit le bureau des services Maktab al-Khedamat pour canaliser et encourager le soutien matériel et humain des Arabes à la résistance afghane. Il est paniqué parce que, en fait, ce qu'il voit, c'est du tourisme islamique. Ce sont des Saoudiens qui viennent pendant l'été et qui retournent pour la rentrée universitaire dans leur pays. Donc, il faut qu'il élabore une justification théorique de cet engagement auprès de la résistance afghane. Il va s'y prendre à deux fois, en 83 puis en 84. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est de la casuistique, mais c'est intéressant parce qu'il suffira que je vous explique, même de manière très sommaire, et vous verrez à quel point le raisonnement prend l'eau de toutes parts, et donc à quel point cette construction est une construction absolument idéologique qui a été repeinte en vert. En effet, que dit-il ? Il dit d'abord, argument d'opportunité, les frontières de l'Afghanistan sont ouvertes alors que les frontières de la Palestine sont fermées. Ah, bon. Donc, il faut mieux aller faire le djihad là-bas qu'en Palestine. Pour un Palestinien, c'est quand même intéressant. Mais surtout, il dit, l'Afghanistan a été occupé, c'est donc un djihad défensif. Jusque-là, c'est absolument imparable. Sauf que c'est un djihad défensif pour les Afghans, dans la théorie, dans la charia, hein, dans le droit islamique. C'est pas... Mais il dit, donc c'est une obligation individuelle, bon, même ça, ça commence à être discutable, parce qu'après tout, il y a beaucoup de chers afghans, en Afghanistan, comme dans les camps de réfugiés, qui pourraient, eux, édicter des fatwas pour ou contre. Donc on n'est pas dans une situation de décomposition de la communauté qui oblige l'individu à se saisir d'une décision qui est une décision très lourde, vu que c'est la décision de la guerre et la paix dans l'islam. Donc déjà, individuel, ça commence à être critiquable. Mais surtout, il dit, cette obligation individuelle, comme elle ne peut pas être assumée avec succès par les seuls Afghans, elle s'étend par corrélation, par transitivité, par homothétie, je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas très bon en maths, hein, dans les pays voisins, donc le Pakistan et l'Iran. Et à partir de là, de frontière en frontière, dans le monde entier. Alors vous voyez que là, ça tient absolument plus du tout la route. D'ailleurs, Azam est obligé de littéralement falsifier les signatures d'un certain nombre d'autorités religieuses à qui il a demandé un avis de manière générale en disant « ils ont souscrit à ma fatwa hein ». Parce que ceci est une fatwa, c'est-à-dire une décision juridique qui est prononcée par un moufti, en l'espèce, Azam a effectivement les qualifications de docteur de charia qui permettent d'émettre une fatwa à un instant donné, mais il l'émet de manière générale, globale, et ça, il n'a absolument pas le droit de le faire. Il place la barre effectivement très haut. Et donc, on voit que, et je vais faire citation, si un empan d'un territoire musulman est attaqué, le djihad s'impose personnellement à celui qui habite ce pays et celui qui en est voisin. S'ils sont trop peu nombreux, incapables ou réticents, mauvais musulmans, alors ce devoir s'impose à ceux qui sont proches jusqu'à gagner la terre entière. Alors ça, on est effectivement... C'est là où on peut voir que les djihadistes ont compris quelque chose, c'est que dès 1984, ils comprennent la globalisation, la mondialisation. Ils comprennent que le terrain de chasse, le terrain de guerre, va être la planète, qu'il n'est pas effectivement réduit à ce qu'est l'Afghanistan. Donc effectivement, on commence en Afghanistan, mais peu à peu, on va élargir terrain. Alors, c'est Ben Laden qui va devenir la personnalité clé. Pourquoi ? Parce qu'il a les relations dans le Golfe et qu'il a l'argent. Hein, alors que Azam, en bon moufti, est particulièrement impécunieux. Et que donc, déjà, des querelles vont aboutir sur la gestion de la manne qui sert à faire venir les volontaires en territoire pakistanais. Il faut bien voir que 90% des soi-disant Afghans n'ont jamais quitté le Pakistan. Et que donc, pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ils se sont gavés, parce qu'on mange très très bien dans ces camps-là, ils se sont entraînés avec un armement fourni sans aucune restriction, et puis, comme on s'ennuyait beaucoup, ben, ils ont rêvé de faire la révolution. Moi, je ferai la révolution en Tunisie. Ah ben moi, je ferai la révolution en Algérie avant. Ah ben moi, parce qu'en plus, comme c'était des organisations sur des bases nationales, des différentes madafas, maisons d'hôtes des moudjahidines, donc en fait des djihadistes, il y avait une surenchère entre les différentes nationalités. Mais l'étincelle qui va faire du djihad global et d'Al-Qaïda la machine de terreur qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, c'était une troisième personne qui est actuellement le chef d'Al-Qaïda. C'est Ayman Zawahiri, qui, pour faire très simple, est un djihadiste égyptien. Je dis djihadiste parce qu'il participe d'une organisation qui s'appelle le djihad islamique, qui est responsable de l'assassinat de Sadat en 1980. Lui-même est raflé, il a peu de choses à voir dans l'attentat, il va dénoncer ses compagnons de cellule après avoir été atrocement torturé, on va le remettre avec les gens qu'il a dénoncés. Donc quand il est libéré et expulsé vers le Pakistan en 1984-85, hein, il passe par l'Arabie saoudite, c'est un être totalement torturé par sa propre faiblesse, qui, comme souvent dans l'histoire, va devenir évidemment un intransigeant, un savonarole absolument redoutable, hein, et ne pardonnant aucun manquement, aucune faiblesse à qui que ce soit. Hein. Et il a une arme pour cela, une arme qui, elle, vient de l'histoire du djihadisme égyptien, qui est le takfir, hein, c'est-à-dire l'infidélisation. Parce qu'un musulman ne peut pas mener la djihad contre un autre musulman, sauf à l'infidéliser. Et donc, du coup, il devient pire qu'un infidèle, vu qu'il est un musulman qui cache son jeu en étant un ennemi de l'intérieur de l'islam. Il va formaliser cette théorie, donc du takfir, qui est une arme, comme on voit, redoutable dans les guerres qui ravagent le monde musulman, vu qu'Al-Qaïda a tué infiniment plus de musulmans que de personnes de toute autre confession, y compris en incluant les massacres du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Mais on voit aussi que ça permet de justifier non seulement une violence débridée, mais que ça va s'appuyer sur les réflexions de Zawahiri par rapport à l'échec de l'insurrection qui a suivi l'assassinat de Sadat. Donc l'idée est que le régime égyptien ou le régime syrien ou n'existe pas en tant que tel. C'est l'ennemi proche qu'il faut renverser. Mais cet ennemi proche ne tient que par la puissance déléguée, transférée, dérivée de l'ennemi lointain, qui est donc l'Amérique et accessoirement la France, parce que Zawahiri voue une haine inextinguible à la France à cause de Napoléon. Hein, Napoléon, donc de Bonaparte, dont il est convaincu, à juste titre, qu'il est le responsable de la Renaissance arabe, donc, du point de vue de Zawahiri, de la décadence actuelle de l'islam contemporain. Donc, toute l'idée, qui est une idée de minorité avant-gardiste, hein, c'est l'idée que, comme on n'est pas assez fort pour défaire l'ennemi proche, qui est l'ennemi stratégique, alors c'est sûr que quand on dit aux Américains, vous savez, pour Al-Qaïda, vous êtes l'ennemi tactique, bon, on a du mal à les convaincre. Ça prend du temps, mais bon, quand on leur donne les arguments, ils finissent par comprendre. Donc l'important, c'est de prendre le pouvoir en Égypte, en Arabie, c'est de prendre le pouvoir dans la Oumma, dans le territoire de l'islam. Hein. Mais pour le faire, il faut aller défier l'ennemi lointain, à la fois pour le déstabiliser, l'effrayer, accroître sa puissance de dissuasion, mais aussi pour que cet ennemi lointain intervienne sur le territoire de l'ennemi proche et donc suscite tellement de troubles sur le territoire de cet ennemi proche qu'il génère un djihad défensif contre l'occupation dans lequel Al-Qaïda pourra littéralement pêcher et rafler des énergies pour son propre djihad global. C'est donc particulièrement pervers et un petit peu dialectique, d'où le problème pour expliquer parfois ça à des décideurs plus carrés. Donc Al-Qaïda est créé secrètement en 1988 au Pakistan. Qaïda, ça veut dire la base. Donc c'est à la fois Al-Qaïda Solba, c'est-à-dire la base solide, la base physique, à partir de laquelle on lance le djihad global. Mais c'est aussi Qaïda Tel Marloumat, c'est-à-dire la base de données, c'est-à-dire la base de données des anciens volontaires, entre guillemets, en Afghanistan, qui permet d'avoir un réseau planétaire. Je rappelle que le bureau des services avait légalement 32 antennes sur le territoire américain, où il pouvait recruter. J'ai des vidéos extraordinaires où il y a les numéros de CCP, enfin, excusez-moi, je suis un peu... les numéros de compte chèque. Hein, et tout ça était diffusé légalement. Donc, ils peuvent immédiatement s'appuyer sur un réseau mondial. Je fais simple, tout ça va se passer de manière un peu tendue avec la famille Saoud lors de l'invasion du Koweït et du recours par les Saoud en 1990 à l'armée américaine pour protéger le royaume saoudien, rupture entre Ben Laden et la famille régnante dans son pays, installation à Khartoum à l'ombre d'une dictature islamiste qui est toujours au pouvoir aujourd'hui et qui se porte très très bien. Et c'est là que Al-Qaïda se développe d'abord sur le continent africain, Somalie, Kenya, Tanzanie, d'où les attentats de 1998, et justement formalise cette dialectique entre djihad, entre ennemis proches et ennemis lointains. 1996, les Soudanais proposent aux Américains de leur livrer Ben Laden comme ils ont livré Carlos aux Français. Les Américains ont peur qu'en récupérant Ben Laden, ils aient des attentats pour le libérer. Donc, ils proposent aux Soudanais de les expulser dans un pays où il ne pourra faire de mal à personne, l'Afghanistan. On voit qu'effectivement, il y a quand même... Alors, vous vous étonnez qu'après, il y ait des théories du complot. Je veux dire, quand vous dites ça comme ça, c'est à peine croyable. Mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, à peine arrivé là-bas, hein, en août 1996, parce que c'est l'époque du fax, donc Ben Laden, depuis sa montagne au sud de Jalalabad, fax une déclaration de djihad à l'Amérique, qui occupe la terre sacrée d'Arabie. C'est-à-dire qu'il utilise la même dialectique que Azam. Il dit « l'Arabie est un pays occupé ». Il ne dit pas « je suis révolutionnaire, je veux renverser les Saouds ». Il dit non, il ne parle même plus des Saouds. Les Saouds n'existent plus. Il dit « il faut libérer la Terre sainte ». Alors, il y a quand même une ligne sur la Palestine, parce que quand même, mais tout le texte est sur l'Arabie. Ce texte, je l'ai lu comme d'autres en août 1996, et comme d'autres, j'ai dit « mais qui c'est ce fêlé ?» Et personne n'a fait attention, et tout le monde est retourné à ses activités normales dans la chaleur de l'été 96. 2 ans après, ce sont les ambassades américaines qui sautent donc à Dar es Salaam et à Nairobi, et donc 3 ans après, c'est le 11 septembre. Donc après le 11 septembre, je fais très court et je vais conclure. On a effectivement un éclatement d'Al-Qaïda du fait de l'offensive effective, efficace, menée pour restaurer, pour détruire l'émirat taliban et pour expulser Al-Qaïda du pays. Cette offensive est malheureusement incomplète parce que Al-Qaïda peut s'échapper, parce que les Américains ont des... c'est l'époque où les Américains croient qu'ils peuvent gagner une guerre avec 40 morts. Et donc, quand on leur dit pour capturer Ben Laden, il en faudrait 100 de plus. C'est insupportable pour les Américains en 2001. Insupportable. Et puis, de toute façon, ils s'en moquent parce que ce qu'ils veulent, c'est Saddam Hussein. Hein, on le sait de réunions qui se sont tenues le 11 septembre 2001, hein, notamment par la voix de Cheney et de Rumsfeld, donc vice-président et secrétaire à la défense de l'époque. Et donc, les Américains amènent sur un plateau, mais un plateau à Al-Qaïda, d'ailleurs, ils appellent ça Al-Ghazwa al-Mubaraka, l'invasion bénie. Ils n'en reviennent toujours pas. Ils disent, nous, on est obligés généralement d'aller mettre des bombes et des bombes et des bombes pour que l'ennemi lointain intervienne sur le territoire de l'ennemi proche. Et eux, ils font ça tout seuls. Hein, c'est pour ça, d'ailleurs, que Al-Qaïda, tous ces derniers temps, priait pour une guerre israélo-iranienne. Ils disaient, alors ça, ce sera encore mieux que l'invasion américaine de 2003. Alors là, on n'a plus qu'à ouvrir les vannes. Et donc, il n'y avait pas un membre d'Al-Qaïda en Irak avant l'invasion américaine. Il y en avait plusieurs milliers quelques mois plus tard. Hein. Mais sur place, parce que c'est compliqué à l'intérieur d'Al-Qaïda, puis ils ne s'aiment pas beaucoup. Et puis, il y a toujours les nationalités. C'est-à-dire cette idée qu'on va être tous des djihadistes qui ne seront plus que des musulmans abstraits ne fonctionne pas même à l'intérieur d'Al-Qaïda. Où les Égyptiens ne supportent pas les Algériens, où les Algériens ne veulent pas obéir aux Irakiens, où... C'est quand même extraordinaire qu'une organisation comme Al-Qaïda, qui vit depuis 23 ans dans les zones tribales du Pakistan, n'ait aucun Pakistanais dans sa hiérarchie. Ça vous en dit long sur les identités linguistiques, ethniques, hein, qui sont bien plus importantes que tous les discours sur la Oumma, etc. Alors le problème, c'est qu'on a des petits loulous dans les cités qui n'ont pas compris ça et qui partent se jeter dans les bras de ces gens et qui, généralement, le payent très très cher. Et quand c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faudrait mieux leur dire avant qu'ils y aillent. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Donc, on voit bien que depuis le... cette invasion de l'Irak, on a eu une dimension anti-chiite qui était pratiquement absente de la pratique d'Al-Qaïda. Évidemment, ils détestent tout le monde. S'ils détestent tous les mauvais musulmans, ils ne vont pas aimer les chiites. Mais ils n'avaient jamais fait d'attentat anti-chiite. Jamais, jamais, jamais. Hein. Avec Zarqawi, ça devient, systématique. Hein. Et donc, c'est un nouvel attribut qui vient. Et donc, bon, pour conclure, on a différentes branches d'Al-Qaïda depuis la mort de Ben Laden en 2011. Zawahiri est toujours au Pakistan, il ne contrôle pratiquement plus rien. En fait, seule une branche lui a prêté allégeance, ce qui est très important dans le formalisme djihadiste, c'est la branche au Yémen, hein, qui s'appelle pour la péninsule arabique. Al-Qaïda en Irak fonctionne en franchise autonome. Al-Qaïda au Maghreb islamique également, hein, ACMI. Et donc, le vrai danger, c'est d'arriver à un processus de talibanisation d'une population, quelle qu'elle soit, qui, à un moment, va considérer qu'Al-Qaïda, comme ça a été le cas pour les Pashtuns afghans, représente, d'une certaine façon, son bras armé. Hein. C'est ce que Zarqawi, donc le chef d'Al-Qaïda en Irak, n'était pas arrivé à faire pour les sunnites d'Irak, et c'est ce que Maliki, l'actuel premier ministre chiite d'Irak, qui est quelqu'un d'une brutalité inouïe, extrêmement sectaire, est en train de réussir à faire. C'est-à-dire qu'il est en train de convaincre les sunnites d'Irak que c'est Al-Qaïda ou rien. Hein. Moi, je pense que la guerre en Irak s'arrêtera le jour où on donnera aux sunnites un de ces trois ministères, le pétrole, la défense ou l'intérieur. Tant qu'ils n'auront pas un des trois, il y aura des bombes, il y aura des djihadistes qui s'exporteront en Syrie. Alors que très souvent, on voit le système contraire. Et donc, les deux derniers épisodes sont tout à fait passionnants parce qu'on voit comment ce djihad global rentre toujours et fatalement en conflit avec le djihad national, qui, lui, n'est jamais qu'une dérivée ni sympathique, ni gentille, ni quoi que ce soit, mais qui est une dérivée territorialisée. Territorialisée. Alors que le principe d'Al-Qaïda, c'est de rompre le lien avec un peuple et un territoire musulman, soit à défendre, soit à conquérir. Hein. Et donc, on voit depuis quelques semaines en Syrie, c'est très clair, il y a des gens, alors moi j'étais à Alep cet été, donc je les ai vus, alors c'était extraordinaire, ils disaient tous qu'ils étaient djihadistes. Donc moi quand même, j'en menais quand même pas trop large entre les uns et les autres. Mais sauf qu'il y a des djihadistes qui sont syriens avant tout, et ceux-là viennent de se soulever contre les djihadistes qui sont internationalistes, globaux, mondiaux avant tout. Et ça a été une bataille effroyable. Ils ont eu un millier de morts en quelques jours, et ils ont réussi à les expulser d'Alep. Et ils appellent cette période la seconde révolution. Et puis, comme la conférence de Montreux a été citée par Philippe Levinas, je finirai sur cette citation de la dite conférence. Walid Mualem, donc le ministre des Affaires étrangères de Bachar el-Assad, devait parler 10 minutes comme chacun des intervenants. Il a parlé 31 minutes en étant plusieurs fois coupé par le secrétaire général de l'ONU qui lui disait « Mais enfin, promettez-moi que maintenant c'est fini. » À chaque fois, il répondait « Les Syriens tiennent leur parole. » Je confirme que les Syriens tiennent leur parole, mais pas les valets et les laquais de Bachar el-Assad. Et pour ma part, j'espère avoir tenu les 30 minutes qui m'étaient allouées. Merci.